Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous quotidien de cette émission consacrée au football, bien sûr. Très heureuse de vous retrouver tous. Et je sais que Olivier Pron notamment et Hugo Moissonnier ont très bien fait le travail pendant que je n'étais pas au micro. Je les embrasse et je les remercie. Alors aujourd'hui, dans nos débats, nous continuerons évidemment avec ces éliminatoires africaines puisque c'est la sixième et dernière journée. Et un résultat est tombé, malheureusement, le Sili National absent de cette prochaine CAN. Les Guinéens ont perdu à Dar es Salaam alors qu'il leur fallait un point pour rallier le Maroc. On est très triste pour une équipe qui avait trop mal commencé malheureusement ses éliminatoires. Il reste à cette heure encore deux places à prendre, mais la fête du football continental aura ce soir tous ses qualifiés. Et voici les Guépards. Les hommes de Guernot Rohr ont obtenu leur qualification grâce à leur match nul en Libye hier soir. Le Bénin ne disputait plus la CAN depuis celle d'Égypte à l'été 2019. Le Maroc, puissance 18, un parcours sans faute pour les Lions de l'Atlas, qualifiés d'office pour être les hôtes de la future compétition qu'ils aborderont comme les grands favoris puisqu'ils joueront à domicile. Le trophée des champions PSG-Monaco le 5 janvier prochain se disputera à Doha. La Ligue française de football, la LFP, a préféré le Qatar à la Côte d'Ivoire. Pourtant, les champions d'Afrique ont de bien belles installations sportives. Ronaldo le vrai bien sûr messieurs, sera-t-il un jour président ? Alors président de la Confédération brésilienne de football. Il préparerait sa candidature. Eric Frozio, notre correspondant au Brésil, nous en dira plus. Il sera en direct donc du País do Futebol. Bonjour Eric Rabessandratana.
Bonjour Annie, ça va ?
Vous voulez pas aller aider Ronaldo à être
président de la Fédération ? Bien sûr, j'y vais tous les jours.
Allez. Je pense que vous n'allez pas vous ennuyer si vous y alliez. Ouais. Bonjour Nabil Djellit.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Vous aussi, vous êtes prêt à l'aider ?
Ronaldo... Plus, moi, je serais plus... si lui pouvait m'aider à découvrir le Brésil, ou vous, Annie, par exemple, parce que je sais que vous connaissez parfaitement ce pays, je serais plus tenté par ça que vraiment me mêler des affaires du football brésilien, pour être honnête avec vous.
Oui, ouais, surtout que c'est pas terrible. On va en parler. Chérif Guémour, bonjour.
Bonjour Annie,
vous
bonjour à tous.
Vous avez une avance sur nos deux camarades, ouais, vous parlez un peu le brésilien.
Je le comprends un peu, et si j'ai un appart à Ipanema,
Ipanema
peux être là.
Ah, Santa Teresa. Santa Teresa.
Santa Teresa, oui.
C'est pas mal aussi. Hein,
je veux bien être assistant de Ronaldo.
Quand même.
On en parlera, on dira à notre ami Eric Frozio, vous êtes candidat. Radio Foot préparé avec Pierre Guérin, David Finzel et Laurent Salerno. Radio Foot, c'est parti.
Partout avec des initiatives tanzaniennes qui se multiplient. Attention à ce ballon! Attention, et voilà, libre de tout marquage!
On a dû répéter,
il a ouvert la marque. Quel but! Oh là là! La Tanzanie qui ouvre la marque à la 60e minute, saluée par 60 000 spectateurs. Le Sili qui doit tout refaire ici.
Malgré les aléas des deux premières journées, Sili avait rattrapé le tir et on a cru. Et malheureusement aujourd'hui, c'est fatal pour nous. C'est vraiment une déception ce soir.
L'arbitre zimbabwéen siffle la fin du match. La Tanzanie qui bat la Guinée.
La Guinée ne verra pas le Maroc l'hiver 2025-2026. Tout à l'heure, à Dar es Salaam, le Sili National a subi la loi des Taifas Stars, s'inclinant 1-0. Un petit but, mais il leur fallait un petit point. Et il n'y a donc pas de qualification pour cette équipe des Guinéens. Ils ont perdu la dernière rencontre après un très mauvais départ dans ces éliminatoires. Nabil, ils sont déçus. Ils ont eu raison d'y croire, évidemment, jusqu'au bout. Mais c'était compliqué d'avance, on dira ce dernier match.
Oui, c'était compliqué d'avance. Ils étaient sur une opération remontada. puisque c'est vrai que vous avez raison de rappeler qu'ils ont débuté ces éliminatoires d'une manière catastrophique. Ils ont un peu créé les conditions de leur échec. Mais...
ils avaient perdu contre la RD Congo, rappelons-le. Ouais. Mais là, bon, c'est les premiers du groupe. Donc, eux, ils ont 5 victoires sur 6. Mais après, c'est ça. Ils avaient perdu contre la Tanzanie à domicile. Et c'est
à domicile sur terrain extérieur.
Neutre, bien sûr,
je crois que c'était au Maroc, si je ne dis pas de bêtises. Donc, au mois de septembre, c'est septembre noir. Quoi. C'est 0 points sur 6. Pour eux. Donc, c'est terrible. Et puis, surtout, il y a une vraie instabilité à la tête de cette sélection, puisqu'on se rappelle qu'ils avaient fait des très belles choses lors de la dernière CAN. On y était avec un quart de finale et une équipe de Guinée en ballante sous les ordres de Kaba Diawara. Et puis, il a été remercié juste avant les débuts des éliminatoires, non pas pour des mauvais résultats avec l'équipe de Guinée, mais avec l'équipe de Guinée olympique. Donc, on n'a pas tous très bien compris.
Non.
Ensuite, pourquoi pas, on souhaite rappeler Dussuyé, mais on ne le rappelle pas tout de suite. On fait d'abord une intérim avec Charles Paqui. Ces matchs du mois de septembre où tout part à volo et quelque part c'est là où ils se mettent dedans quoi. Et puis derrière ils reviennent très bien,
ils
double confrontation avec un Guirassy exceptionnel face à l'Éthiopie, un match presque référence face à la RDC avec un but dans le money time de Guirassy encore une fois, mais en face il y avait l'outsider de ce groupe là et il s'est pas raté sur ce dernier match à domicile. C'est la Tanzanie, c'est pas non plus un inconnu sur le continent africain. C'est une équipe qui joue maintenant régulièrement la CAN, on les a vus, alors pas avec des résultats probants encore, mais ils sont dans le paysage du football africain et ils le sont aussi en club avec Young Africans et Simba. Donc en face, il y avait quand même du répondant ce soir pour les Guinéens.
Ils le sont d'autant plus, Eric, c'est à EFA Star qu'ils seront les prochains hôtes de la CAN. Alors non pas celle du Maroc 2025-26, mais celle d'après. Co-organisateur avec le Kenya et le Rwanda.
L'Ouganda.
Mais quand même, la Guinée, c'était une tâche compliquée parce qu'elle jouait justement. Alors déjà qu'elle ne joue pas à domicile les matchs officiels, mais en plus là, elle jouait à l'extérieur et une équipe qui jouait sa qualification.
Qui jouait sa qualification. Moi, j'ai eu le loisir de les affronter avec Madagascar. Je peux vous dire que c'est très difficile de jouer cette équipe de Tanzanie. J'avais lutté pour un résultat à domicile, un match nul, mais c'était très compliqué. Et puis derrière, aller faire un résultat là-bas, c'était quasiment impossible avec une équipe qui a une quasi-formation un petit peu danoise et qui a eu un entraîneur longtemps qui a mis en place ce jeu et qui a toujours un héritage de ce côté-là. Donc c'est compliqué d'aller jouer cette équipe. Elle est très dure à jouer chez elle. Donc pour la Guinée, forcément, c'était... je ne dis pas cause perdue, parce qu'il y a toujours quand même possibilité de faire un résultat, mais dans ces conditions, c'est compliqué.
Mais après, tu étais quand même sur une belle dynamique. Tu sors d'une victoire quand même contre la RDC.
Ouais.
Dans tes rangs, tu as quand même Guirassy qui marche sur l'eau.
Ouais.
Alors, je veux bien que la Tanzanie, ça soit un outsider coriace.
J'entends.
Mais
est-ce que vous allez craquer comme un commentateur guinéen à ce micro,
Nabil Djellit? Une pression quand même inconsciente sur la Guinée.
Mais t'as quand même un peu d'expérience maintenant. T'es quart de finaliste de la CAN. T'as quand même des joueurs d'un niveau quand même intéressant du côté guinéen. C'est, faut le dire clairement,
c'est une énorme
déception.
Bien d'accord.
C'est une CAN à 24.
Ils avaient réussi à obtenir cette place de quart de finaliste. Ouais. On se souvient, c'était la fête pour les Guinéens en Côte d'Ivoire.
Bien sûr.
Il y a pas longtemps. Je faisais allusion à un commentateur
qui radio télévision
s'est mis en colère.
Ouais, parce qu'il était très très déçu, quoi, très meurtri, et que c'est vrai que c'est un peu l'ascenseur émotionnel, quoi, pour les Guinéens. Mais quelque part, je vous dis, ils sont comptables. Alors, j'espère que les hommes qui ont pris les décisions, notamment de remercier un staff qui avait été quart de finaliste de la dernière CAN, j'espère que ces gens-là, eux, vont prendre leurs responsabilités maintenant. Mais je ne sais pas pourquoi j'en doute.
Je pense que souvent, on en doute, d'ailleurs. Chérif Guémour, c'est vrai que Michel Dussuyé, qui connaissait bien cette équipe, qui déjà avait fait avait obtenu de très bons résultats avec eux, si je ne me trompe pas, c'était à la CAN 2015, entre Guinée équatoriale et Gabon, cette année-là, où il était avec eux. Et là, il avait été rappelé un peu en pompier. Il en avait parlé dans cette émission, notamment avec Olivier Prond dans Radio Foot. Ils ont fait ce qu'ils ont pu.
Il y a eu le déclic. Comme Nabil l'a très bien rappelé, les deux matchs contre l'Éthiopie et contre le RDC, 3 victoires, avec un Guirassy
et pas mal de buts.
6 buts. Moi, personnellement, j'y ai cru. Je me suis dit,
je crois qu'on a voulu y croire aussi.
Oui. Et après, il y avait le dernier match aujourd'hui. Après, il y a une défaite. Bon, on a tout dit. Je crois que c'est le départ, le mauvais départ qui les a mis dedans.
Du on l'a rappelé trop tard.
Oui, c'est pas contre Dufy, on l'a rappelé trop tard. Parce qu'il faut rappeler que c'est pas contre Dufy, c'est simplement que les choix.
Et puis, on l'a sans doute rappelé
souvent,
trop tard.
Et puis, ouais,
on n'est jamais vraiment éliminé à la dernière journée d'un championnat, d'une poule. C'est que quelque part.
Guirassy, si je ne me trompe pas, il avait été blessé au début de ses éliminatoires.
Je crois qu'il n'était pas là en septembre.
Il n'était pas là.
Il a mis 5 buts contre l'Éthiopie. Et puis
c'est
un
son retour.
Mais le problème, c'est la victoire contre la RDC. C'est-à-dire quand on voit la victoire contre la RDC, on a l'impression que la qualification, elle est acquise parce qu'il y a un tel soulagement, une telle joie. Et en fait, on a l'impression d'avoir atteint son Everest à ce moment-là. Et puis ça le fait souvent. Et derrière, il y a une décompression un peu naturelle. Et puis, ils ont été piégés par cette équipe de Tanzanie, quoi, qui n'a pas volé sa place non plus.
Bien sûr.
La Tanzanie est deuxième avec 10 points. La Guinée, troisième avec 9 points. Et elle ne démérite pas, parce que hier, dans Radio Foot, on parlait de ce Ghana, qui termine avec 4 points, je crois. Donc, c'était assez honteux.
Le Ghana, c'est une farce.
Oui, donc malheureusement, la Guinée...
Il va falloir se remobiliser à Nîmes maintenant dès le mois de mars pour les éliminatoires Coupe du Monde. Dans quel état va être cette équipe? Est-ce qu'il y a des joueurs qui vont conserver un peu cette moelle, cette motivation en sachant que il n'y aura pas de Cannes en fin d'année?
Est-ce que c'est un virage?
Attention au groupe WhatsApp, parce que ça se trouve le groupe il va moins bien vivre là, puisqu'il y a des choix quand même qui ont été faits. Naby Keïta qui a été mis de côté, Madi Camara qui est revenu. On sait que les deux, il y avait une forme d'incompatibilité qui dépassait le cadre du terrain. Moi, je suis curieux de voir la suite.
La suite. Ouais. Malheureusement, parfois, les suites ne sont pas trop intéressantes, mais souhaitons leur le meilleur à ce Silly qui nous avait beaucoup plu sur ces derniers matchs. Hier soir, c'était la fête à Cotonou, où les supporters étaient notamment réunis sur la place de l'Amazone devant un écran géant.
Mesdames et messieurs, merci d'être venus et à très bientôt.
C'est terminé! Le Bénin tenu! Voilà! Ils n'ont pas craqué! Ils ont tenu! Ils étaient meilleurs! Ils ont fait le job! Ils ont cherché le point qu'il leur fallait! Le qualifier en compagnie du Nigeria dans ce groupe de folie, c'est bien le Bénin! Bravo!
Et pour la première fois, les Guépards disputeront la CAN. La première fois, parce qu'en 2019, ils s'appelaient encore les écureuils. Des petits animaux si agréables, mais finalement, peut-être que le changement de nom leur a réussi, Nabil.
Peut-être, ouais.
De surnom, bien sûr.
Est-ce que ça leur a permis d'intimider un peu plus leurs adversaires? Non, je crois pas. Je crois qu'ils ont
fait. Les fauves, les guépards, quand on les voit de près.
Mais moi,
ça
pour moi, le guépard, c'est surtout un animal qui se caractérise par sa vitesse, puisque c'est l'animal le plus rapide au monde. Mm-hmm. Il monte jusqu'à 110 km à l'heure. Mm-hmm. C'est surtout ça l'image du guépard, plus que réellement d'un carnassier.
C'est un carnassier.
C'est un carnassier, mais
c'est un
je le vois.
Ouais.
Je vous ai montré des images, je crois, de guépards carnassiers.
Ouais, voilà. Donc ce guépard-là, moi, c'est vrai qu'il y a aussi les guépards du désert. Il en reste très peu. Ouais. C'est une espèce en voie de disparition.
Malheureusement,
vaste sujet, mais on n'est pas
en
là.
En tout
pour
cas,
ça.
Les Béninois ont manqué deux coupes d'Afrique des Nations, mais ils ne manqueront pas la troisième. Ils seront au Maroc après avoir tenu en échec hier les Chevaliers de la Méditerranée. La joie des joueurs dans la voix du défenseur de ces guépards, Johan Roche, au micro de notre correspondant Théophile Aza.
C'est une joie immense, on l'attendait depuis longtemps. Malheureusement, encore une fois, c'est dur de se qualifier à une Coupe d'Afrique. On a attendu le dernier match, mais quelle joie. C'est la réussite de tout un groupe. On est tous ensemble, solidaires. Vraiment, notre travail, il a fini par payer. Et je suis très content pour ça. C'est même pas que pour moi que je suis content. C'est pour tout le groupe, toute ma famille, tout le peuple béninois. C'est indescriptible. On vient d'écrire l'histoire, c'est quelque chose d'incroyable. C'est quelque chose qu'on n'oubliera jamais. Parce que venir ici et aller chercher un nul, c'était quelque chose de pas facile. Parce que vraiment, on a eu un public chaud. Et on savait qu'ici, ça allait être dur. Vous avez promis l'enfer. Et on a réussi à maintenir notre cap, à être solidaire, à être costaud défensivement. Et voilà, ça a payé, donc on est tous très contents. Et on fera tout pour vous rendre fiers à la CAN au Maroc. Et oui, voilà.
Ça, joie... ça sent la joie un peu. Hein, un
ça
petit
sent,
peu.
Hein, Eric. Alors, un retour attendu et guetté au pays. Un retour mérité en plus dans le cercle des 24 qualifiés. Gernot Rohr était venu pour ramener le football béninois à son meilleur niveau, celui vu en Égypte jusqu'en quart de finale. C'était alors avec un certain Michel Dussuyer. Doit-on dire à Cotonou, merci Gernot.
Bah merci. Bah oui.
Je m'adresse à l'ancien
non, mais
coach
moi je les ai aussi affrontés. Je les ai affrontés en plus aussi.
Oui.
Évidemment, et que c'était une équipe.
Et tu
une
les as pas battus.
Et que je les ai pas battus.
Et t'as battu qui
et j'aurais dû les. J'aurais dû. Bah, la RDC.
La RDC, oui.
Quand même.
Ah oui, c'est
on
pas
s'en
mal.
Souvient.
Mais,
c'est pas
mais,
mal.
Mais, non, mais bah, pareil, c'est, j'ai envie de dire. Peut-être même encore plus que la Tanzanie, le Bénin est une équipe à respecter et qui, alors même si ça a été compliqué les résultats quand même sur le
ouais,
sur
ouais.
le parcours,
oui.
t'as voilà, mais t'as quand même été capable de peut-être ce nul aussi contre le Nigeria qui fait que et puis ces deux victoires. Mais en dehors de ça, c'est une équipe qui est respectable et qui est je trouve quand même à sa place dans cette qualification.
On se souvient d'un Broglio,
groupe,
hein, ça arrive parfois, un épisode contre la Sierra Leone, n'est-ce pas? Mon cher Chérif Guémot, bon, on va pas revenir là-dessus, mais en tout cas, l'importance du sélectionneur Gernot Rohr, qui vient, qui a une véritable expérience. On l'a vu avec le Nigeria, on l'a vu avec le Niger, on l'a vu avec le Gabon,
le Burkina,
avec le Burkina, pardon, pas le Niger.
On a parlé de Dussuyer.
Il a pris le Niger
et Niger aussi.
Est-il arrivé trop tard? Incontestablement, oui. Gernot Rohr, par contre, lui, il arrive en février 2023, donc il a eu le temps de prendre la mesure de son groupe. Et bon, il y a quelques bonnes individualités, mais surtout, on connaît la force de Gernot Rohr, c'est de faire des bons groupes. Des groupes qui fonctionnent. Et je ne dirais pas opération commando, parce que bon, il a.
Non, il était là pendant toutes les éliminatoires.
Voilà, c'est ça.
Mais...
Donc.
Bah, à son image, déjà.
Voilà,
c'est
ça.
En général, c'est des équipes à son image. C'est vrai.
Pas une équipe extraordinaire.
Comme, ça, joueurs,
comme tu l'as dit, il y a eu des résultats un peu tangents. Ouais, mais finalement, d'un point de vue comptable, bah, ils font la différence de but. Zéro.
Il n'y a pas beaucoup de défaites, mais c'est compliqué.
Ouais,
de...
Voilà, après, c'est ça. Après... Enfin, c'est. Toutes les éliminatoires, de toute façon, dans toutes les zones, que ce soit en Amérique du Sud et en Europe, en Afrique, il y a des matchs qu'il ne faut pas perdre. Et voilà, c'est quand on ne peut pas perdre, on peut au moins faire match nul. Quand on voit les résultats, c'est à peu près ce qu'ils ont fait.
Ouais.
Non, mais pour moi, c'est un exploit, hein, ce que réalise le Bénin. Ils n'ont pas un réservoir,
voilà.
Un effectif dantesque.
Oui,
ils étaient dans une poule où ils ont été quand même capables de regarder même le Nigeria dans les yeux sur un match, l'avant-dernier match. Ils ont
le
fait
deuxième
un
de ce groupe, c'est effectivement
le Nigeria. On parlait tout à l'heure de la Guinée dans des conditions difficiles en Tanzanie. Mais c'est un exploit ce qu'ils ont fait. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que ce que fait la Libye, c'est inacceptable.
Alors justement, Nabil, on va en parler.
Allez-y,
parce que
je vous en prie.
Alors, ils sont qualifiés et ça c'était la bonne nouvelle hier soir, qualifiés grâce à un match nul obtenu en Libye. Le problème, c'est que les problèmes se multiplient et se répètent surtout. En Libye, la sélection, on s'en souvient, avait déjà été punie par les instances lors d'une défaite sur tapis vert pour avoir mal reçu et maltraité l'équipe des Super Eagles, l'équipe du Nigeria, qui d'ailleurs est qualifiée, elle. Apparemment, on a récidivé hier soir et on va écouter le capitaine, alors néo-joueur de Augsbourg en Bundesliga, mais le capitaine de cette équipe, Steve Mounier, qui s'est insurgé après la rencontre dans le vestiaire. Alors partagé, évidemment, entre la joie de la qualification, mais aussi la peur face à la foule qu'ils ont vue à la fin du match.
C'était vraiment une zone de guerre, si je peux dire. Cette équipe de la Libye, ce pays, je dirais, même ses supporters ne nous ont pas respectés en début de match. Ils ont sifflé notre hymne national et on en a fait une affaire personnelle. On voulait sortir de ce match avec la qualification. On l'a fait dans la difficulté, mais on a réussi. Aujourd'hui, le Bénin va à la CAN. Le Bénin sera à la CAN 2025. On peut être fier de ce qu'on a réalisé avec ce groupe de jeunes joueurs, ce nouveau groupe. Je pense que tous les Béninois aujourd'hui sont en train de faire la fête au pays. On leur a offert ça. Et j'espère qu'ils vont continuer à nous soutenir.
Alors, c'est sûr qu'ils continueront à vous soutenir, Steve Mounier. Mais Gernot Rohr, le sélectionneur, et un ou deux membres du staff ont aussi été
blessés
et maltraités.
C'est scandaleux.
Après le match, ce que je disais, c'est une triste répétition.
Bah, il y a déjà eu, vous avez bien fait. Alors, c'est là où c'est incroyable. Il y a récidive. C'est-à-dire que Il y a déjà des sanctions qui sont tombées pour ce Libye-Nigeria qui ne s'est pas joué. La Libye a perdu le match sur tapis vert 3-0. On a vu aujourd'hui dans le monde dans lequel on est les images, et c'est très bien parce que des fois il y a des mauvais côtés, mais là c'est un bon côté. Les images vont très vite. On a vu ces joueurs nigérians maltraités dans un aéroport perdu, je ne sais plus où, avec un plan de vol qui a changé à la dernière seconde. Donc derrière ça,
après ça c'est courant quand même en Afrique.
Oui, mais c'est pas pour autant qu'il faut il faut le cautionner. Quoi, je veux dire, où il faut le.
Non,
il faut
pas, à un moment, il faut la CAF sévit, ouais, voilà. Notamment en interdisant le nombre de stades incroyables.
Alors, derrière ça, je me suis dit, bon, je pense que là, ils ont pris cher, ils vont comprendre. Là, il y a un match décisif parce qu'ils jouent leur qualification pour le coup. Alors, d'une manière
ça
peut-être
compliqué, d'ailleurs,
ouais, moins éhontée avant le match, mais pendant et après le match, ce qu'ils ont fait, c'est complètement inacceptable. Et il en va. Parce que ça, c'est des méthodes d'un autre temps, c'est des méthodes de voyous, c'est des méthodes archaïques. La Libye n'a pas le monopole de ce genre de comportement,
ça, c'est vrai.
Mais malheureusement pour eux, ça fait deux fois qu'on les prend dans cette situation. Il y a un moment, le crédit du football africain, il passe aussi
ça, je suis d'accord. Par... Complètement.
Parce que quand on demande d'être respecté, il faut se respecter soi-même.
T'as complètement raison, Nabil.
Là,
c'est...
ça dépasse tout entendement, tout bon sens... C'est du football,
non, mais c'est
du sport.
C'est des histoires que tu ne peux pas entendre en Europe. Et du coup, bah, ça discrédite le football africain par rapport à ça. Et c'est malheureux parce qu'il y a plein de belles choses qui se passent là-bas. Sauf que des comportements comme ça vont nuire à cette image du
oui,
football
et puis,
africain.
Et puis, attends, non, mais la sécurité des joueurs béninois. Mais c'est quoi ce délire-là ? Mais c'est n'importe quoi.
Faut pas s'arrêter juste aux coups et blessures qui peuvent être légers. C'est la peur se sentir... totalement non protégé, par rapport à une
foule abandonnée,
une en colère. Ouais, voilà, c'est ça. C'est
oui, parce qu'apparemment ça... c'est force de l'ordre en plus qui aurait un peu secoué le staff. Donc
non, mais quand
c'est
on
inquiétant.
Est dans ces situations-là, on vit un véritable traumatisme. Et on se demande quand va s'arrêter.
La CAF va-t-elle sévir encore?
Elle a intérêt.
Bah, il faut des mesures, c'est sûr.
Non, mais là, c'est
peut-elle
plus...
sévir encore plus.
Ouais, non, mais là, c'est plus une interdiction
non, mais
de
doit
stade.
Doit sanctionner la Libye de plus jouer chez elle pendant X temps, c'est tout. Ça, c'est
là,
la première
c'est
des choses.
Pas seulement une défaite sur tapis vert. Là, ça serait plus grave.
Bah, à partir du moment où il y a agression de joueurs,
c'est horrible.
Alors, oui, là, on sort du cadre du sport même.
Et c'est pas une simple. Moi, je pense que ça peut aller plus loin. C'est pas une simple interdiction de stade.
En plus,
après, il y a la sanction suprême, c'est-à-dire donc priver, suspendre l'équipe de Libye. Je sais pas.
Moi, j'ai pas envie de. Alors, je vous dis comme je le ressens. Oui. J'ai pas envie de sanctionner les joueurs. Mais en revanche, j'ai envie de sanctionner. Il faut sanctionner la Libye,
les
la fédération libyenne.
C'est
leur enlever l'agrément.
Mais c'est eux qui sont responsables de l'organisation. C'est ça.
Ils ne peuvent plus recevoir pendant 2 ans, par exemple.
Ah, je suis d'accord.
Voilà, terminé.
En plus, on les fait jouer une fois à Tripoli, une
parce
fois à
Benghazi.
Parce que les
joueurs, c'est compliqué.
Donc c'est les deux pôles de ce pays qui ne se parlent plus.
Les joueurs,
tu n'es
pas concerné. C'est quand même dommage de
les joueurs,
les mettre en difficulté.
C'est les premiers qui doivent mal le vivre.
Non, mais bien sûr.
Plus,
donc
tu n'es
pas concerné. Par contre, la
Fédé,
tu es responsable de l'organisation aussi, quelque part. Donc du coup, cette non-protection de l'équipe adverse, tu es responsable.
Ah oui. Bon, en tout cas, ces guépards du Bénin sont doublement héroïques. Ils arrivent dans l'après-midi en provenance de Tripoli. On imagine qu'il y aura un bel accueil du côté de Cotonou.
Pourtant, je pensais qu'en Libye, ils étaient très polis, les gens. Mais...
Merci, Nabil Djellit. Dans ce groupe D, donc, c'est le Nigeria et le Bénin. Le groupe F, survolons, mais le Niger, eh bien, il a été doublé par le Soudan. Et malheureusement, le MENA ne verra pas non plus le Maroc. Il faut dire que cette équipe n'avait plus son destin en main. Une équipe du Niger qui est quand même donc tombée
choses,
avec
même.
Les honneurs. Parce qu'évidemment, c'est ce que vous alliez dire, j'imagine, Nabil. Ils ont remporté leur dernier match face aux Black Stars. Des Black Stars démobilisés,
ouais,
on le sait, parce
qu'éliminés.
Mais ils les ont battus.
Ouais, alors c'est plutôt une bonne chose. Le Niger, on les avait vus lors du dernier CHAN, avaient été en demi-finale, donc on sent qu'il y a quand même un travail qui est effectué. Sous la houlette du sélectionneur marocain Badou Zaki, ancienne légende du football marocain, gardien mythique des Lions de l'Atlas dans les années 80. Bah, moi, j'étais un peu déçu parce que, alors, j'aime bien le Soudan aussi, hein, pour être honnête, mais j'aurais bien aimé voir le Niger à la prochaine CAN. Et c'est vrai que c'était un groupe très compliqué. L'Angola. Oui. Qui est de retour
dur.
Parmi les...
C'est une équipe dure à jouer aussi.
Ouais, L'Angola,
on l'a vu à la dernière CAN. Hein.
Surf sur sa dernière CAN. Bon, le Ghana, on en a assez souvent parlé ces derniers temps à l'antenne ici. Bon, c'est plus ce que c'était. Et puis, je suis quand même surpris, le Soudan qui n'a pas de championnat, le championnat est arrêté. Mais même comme ça, ils ont quand même réussi à se qualifier dans une poule pas simple. Mm. Et c'est vrai que pour le Niger, c'est bien dommage, mais il ne faut pas, baisser les bras, il faut continuer à travailler. Et puis, avec des cannes tous les deux ans, vous pouvez revenir rapidement.
Et à 24, l'exploit de 2013, malheureusement, n'est pas réédité. Mais on vous attend, les joueurs du MENA, à la prochaine compétition. Allez, eux sont premiers du groupe B, alors que finalement, ce n'était pas nécessaire.
C'est le Daron, c'est Brahim Diaz, et ça fait déjà 1-0. Et ce diable de Brahim Diaz pour un deuxième doublé. Brahim Diaz dans la surface de réparation, et le triplé. Mais ça va trop vite. C'est un signal envoyé à tout le continent africain par les Marocains. Il va falloir compter sur eux pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui se disputera ici, dans leur pays. 26 buts inscrits, 2 buts encaissés seulement, 6 victoires en autant de matchs.
Les Marocains qualifiés donc d'abord pour être la sélection du pays hôte et puis premier de leur groupe. Et ils ont remporté tous leurs matchs, vous venez de l'entendre, 18 points, un différentiel de buts de 24, 12 buts inscrits en 4 jours. Alors ça c'est pas mal, alors, contre les autos.
Ça souffre pas de contestation. Quoi.
Et le Gabon déjà qualifié, Brahim Diaz. Rien que lui, le joueur du Real Madrid, signe d'abord un doublé contre les autos et un triplé contre le Gabon, ou le contraire d'ailleurs, je crois que c'était le doublé à Franceville. Bref, Chérif Guémour, le Maroc, puissance 18.
Oui, c'est impressionnant. Brahim Diaz est en train de trouver ses marques avec cette équipe du Maroc. On voit que Ounaï, qui a des difficultés en club, performe très bien avec cette équipe du Maroc.
À Marseille, disons-le.
Ben Seguir s'installe. J'aime beaucoup Ben Seguir, le petit jeune de Monaco. Donc, tout le monde marque. Nesyri a marqué aussi, c'est ça. Ils ont donné beaucoup de confiance pour leur attaquant. Après, la puissance du Maroc, bon, on ne la découvre pas. Ils ont fait ça avec sérieux, application. Bon, on connaît l'entraîneur, hein. Ce n'est pas le genre de la maison. Donc, aujourd'hui, objectivement, ils avancent clairement comme favoris. Mais c'est impressionnant, mais ce n'est pas parce que c'est juste 7-0 contre les autos, 5-1.
C'est avec la manière en plus.
C'est la manière.
Nabil Ounaï, en fait.
Il est parti au Panathinaikos.
C'est vrai qu'à Marseille,
ouais, il a été prêté
d'imprimer les joueurs.
Non, vous avez raison.
Il y est passé. Ce n'est pas une erreur.
Attendez, est-ce que. Eric, est-ce que tu as battu le Maroc, le Lesotho ou le Gabon ?
Non,
tu les as joués ?
Je ne les ai pas joués.
Voilà, bon.
Eric, une chose sur le Maroc, on les avait vus, évidemment, on a tous cette belle histoire en Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde de 2022. Le sélectionneur, Regragui, on a cru à un moment que peut-être, une fois le soufflet retombant, ça pouvait devenir compliqué. On se demandait s'il aurait envie de rester, comme parfois dans certaines sélections. Et là, on voit que non seulement c'est avec la manière, comme le disait Chérif, mais en plus, il a gardé la main, en fait.
Oui, mais après, j'ai l'impression qu'ils ont installé une dynamique et un état d'esprit. Ils ont pris c'est plus du tout le voilà, c'est le Maroc et s'est installé comme un grand champion, j'ai envie de dire, et que il va falloir le respecter et certainement pour plusieurs années derrière. Donc j'ai envie de dire que ils ont envie de compter aussi pas que au niveau de la CAN, mais aussi au niveau mondial. Et du coup,
aujourd'hui, leur objectif, c'est quand même de remporter un titre,
bien sûr,
en Afrique,
ce qu'ils ne font pas depuis 1976.
Oui, mais parce après ce parcours en Coupe du Monde, t'es presque dans l'obligation. En plus, si tu l'organises,
c'est ce qu'on attendait d'eux en Côte d'Ivoire.
Ouais, mais bien sûr.
On n'a pas eu.
En Côte d'Ivoire, de toute façon, ils sont passés à côté, tout simplement.
C'est pour ça que là, il y a eu un moment où ça tanguait pour Regragui.
En fait, pour Regragui, ça tanguait non pas sur les résultats, mais sur la manière. C'est-à-dire qu'en fait, avec l'effectif dont il dispose, on souhaitait davantage de spectacles et de buts. C'est ce qui est en train de se passer. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'ils ont renouvelé intelligemment leur effectif avec des nouvelles têtes. Ben Seguir, Brahim Diaz, Alkomach, et il y en a d'autres encore. Se pose la question par ailleurs du cas Hakim Ziyech, qui a été important sur la dernière Coupe du Monde, qui est lui en manque de temps de jeu dans son club, mais qui est aussi une personnalité assez difficile à gérer. Donc on verra comment Walid Regragui va gérer la question.
Des plus jeunes.
Mais ils peuvent faire sans lui, en fait, concrètement.
J'allais y venir.
Et ils peuvent faire sans lui.
Je vois
Maintenant, le Maroc, le truc, c'est un peu toujours la même chose. Je veux dire, ils ont un super effectif, ils ont des super résultats. mais il faut valider. Et la pression, c'est elle va être attendait. XXL à domicile.
Un peu comme en Côte d'Ivoire, d'ailleurs. Oui, Chérif, on voulait rajouter.
Oui, tu parles de Ziyech. Le Maroc fait sans Ziyech. On a vu le but en slalom de Saïd Barry, qui joue au PSV Eindhoven. Pour moi, Ziyech reste Ziyech. Mais pour moi, Saïd Barry...
Il y en a d'autres, hein, encore.
Ouais, il y en a d'autres. Ils ont fait le boulot. Non, mais comme tu dis, il a renouvelé. Là, en équipe de France, oui. Didier Deschamps parle d'oxygénation du groupe. Greg Raghi, lui, l'a fait. Il y a une émulation. C'est ça qui est intéressant.
Mais c'est ça qui est dur dans le football. C'est-à-dire que depuis le Qatar, ça fait quand même 2 ans. Après, il y a eu une canne.
Ça a beaucoup changé.
Le temps passe.
C'est plus la même équipe.
Ils ont une politique d'attractivité des binationaux avec une diaspora qu'on retrouve en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne également. Par exemple, Adam Aznou qui est rentré latéral gauche, qui a fait aussi son apparition avec l'équipe première du Bayern. Alors, je ne vous dis pas qu'il est prêt, mais ces gamins-là, aujourd'hui, à 18-19 ans, ils viennent en équipe du Maroc, ils n'attendent pas l'Allemagne, l'Espagne, la Belgique ou les Pays-Bas. Mais une fois encore, alors je ne cherche pas... Ils créent les conditions de leur succès. On parlait de la Guinée qui avait créé les conditions de leur échec.
Par l'émulation.
Mais une canne, c'est très difficile.
C'est dur. Il y a plus d'incertitudes dans le football africain comme ça pour le Maroc que dans une Coupe du Monde où, je ne vais pas dire que c'est plus facile, c'est pas plus facile évidemment, mais c'est un esprit différent.
C'est un public très dur,
en Afrique. En Afrique, c'est compliqué. Et là, la pression, évidemment, en recevant, ça va être encore décuplé. Mais j'ai quand même l'impression qu'ils sont prêts pour subir un petit peu tout ça.
Oui.
Voilà pour ce qui est de ces éliminatoires. Il reste encore 2 places et demain, nous aurons la réponse définitive. Ça a l'air bon pour l'instant, hein, à cette minute, plutôt bien parti pour la Mauritanie qui.
Il faut que l'Égypte marque surtout parce que la Mauritanie, au moment où on se parle,
elle a marqué. Mais
la Mauritanie est à match nul avec le Cap-Vert Mauritanie mène contre le Cap-Vert et l'Égypte doit absolument marquer un but pour permettre aux Mauritaniens de se qualifier puisqu'il y a un match nul contre le Botswana.
Et même chose entre Guinée-Bissau et Mozambique, où là, pour l'instant, c'est pareil, il y a un genre de suspense, mais un match nul aussi entre ces deux équipes. Nous en parlerons demain, les amis. Nous aurons tous les qualifiés et les 24, et nous aurons l'occasion de faire
plateau,
un
la
bilan.
Piste aux étoiles.
Allez, un petit tour avec le trophée des champions. La Côte d'Ivoire, championne d'Afrique, qui sera au Maroc pour remettre son titre en jeu, qui est en train d'ailleurs de mener devant le Tchad à domicile hein, sur le score de 2-0. Et savez-vous qui est dans les tribunes? Il y a un chanceux.
Non.
De chez nous ici, à Rafi. C'est de quel match déjà?
Mais vous ne m'écoutez pas, Nabil Djelit?
Bah si, j'écoutais, mais
Côte d'Ivoire, Tchad.
Alors attendez, Côte d'Ivoire, Tchad, David Finzel, je l'ai vu.
Laurent Salardo aussi.
Hervé Penaud.
Hervé Penaud.
Dans les tribunes.
Alors.
Faites-lui la fête et on l'embrasse. Ouais. Un pays donc qui a de magnifiques installations sportives, on les a vues, n'est-ce pas, Nabil, à la dernière CAN.
On s'est régalé, ouais.
Et qui accueille désormais de nombreux matchs internationaux. Récemment, il n'y a pas eu moins de 6 rencontres internationales.
Un peu soulager le Maroc qui a accueilli à peu près tout le monde. Quoi.
Exactement. Ouais. Mais... ce n'est pas suffisant pour accueillir le trophée des champions français. Le match de gala qui, théoriquement, alors déjà marque le démarrage d'une saison. Alors, on est un peu en retard. Opposant le vainqueur du championnat et le vainqueur de la Coupe de France. Sauf que parfois, et surtout en France, c'est le même. Donc, ça sera le Dauphin. Et ça sera donc PSG-Monaco. Ce sera le 5 janvier. Et ça sera à Doha, capitale du Qatar.
Ouais. Est-ce que le capitale du football français.
Est-ce que le choix... Alors, attendez, avant de vous donner la parole, on va la donner à l'ancien capitaine du PSG. Est-ce que ça vous surprend, Eric?
Ça me désole.
Eric ça vous désole?
Non, mais
pourquoi?
Ça me désole parce que je trouve ça pas...
La Côte d'Ivoire était candidate, c'est ça le sujet
aujourd'hui. Ça me désole parce que je trouve pas ça équitable, déjà. simplement parce que même si c'est pas, c'est pas.
En gros,
c'est
le PSG joue à domicile.
Ben oui, il joue à domicile. Mmh.
C'est vrai qu'ils connaissent bien les installations.
Personne va dire le contraire. Et certainement pas
chameaux.
Le PSG. Donc, ce qui me dérange, c'est ça surtout. Je veux dire, déjà, je rappelle que le dernier trophée des champions, c'est joué au Parc des Princes. Mmh. Donc là, Parc des Princes.
Alors
là,
ça fait deux fois.
Là, on va au.
Une fois, ça devait être en Thaïlande et ça s'est joué au Parc des Princes. Là, ça devait être en Chine.
Il y a plein d'endroits où tu peux jouer le trophée des champions. Je pense, même en France, au pire. Même en France, tu peux trouver un stade où tu peux jouer. Bon, bref. Mais je trouve ça pas du tout équitable. C'est malheureux quand même dans l'esprit de la compétition et même pour Monaco. Je me dis que c'est pas normal en fait quelque part. C'est pas normal.
Chérif Guémour, est-ce que le PSG a pesé de tout son poids pour emmener ce trophée des champions à Doha?
Faut pas vous laisser Kassane.
Non, j'ai failli dire qu'à Doha, il y a le siège de la LFP.
Oui, l'antenne.
On a un droit de le dire.
Déjà, il y avait le siège de la FIFA.
Oui, attendez, au Doha mouillé, je vais vous dire ça.
Au Doha mouillé, ouais. Donc, non, mais ce qu'il y a de décevant, bon, évidemment, l'influence PSG Qatari, elle est évidente. Alors, pour en revenir, il y a une. On va pas parler de tradition, mais il y a eu un précédent avec Libreville. Le trophée des champions s'est déroulé à Libreville au Gabon, c'était en 2013.
Il y a longtemps.
Donc il y avait un précédent. Quand on parle du rayonnement de la France, la francophonie, le contact
du championnat de France.
Voilà, c'est ça qui est quand même bien suivi en Afrique, dans le Maghreb. Quand même, les clubs français ont encore la cote. Et on trouve ça un peu dommage,
c'est
surtout
triste, ouais.
Que la Côte d'Ivoire a fait ses preuves lors de la dernière CAN. Pour accueillir.
Ça aurait
dans
été
des
beau d'aller jouer chez le champion d'Afrique.
Oui, ça a déjà été fait. Nous, on a joué à Libreville, ça s'est bien passé. Donc c'est assez incompréhensible. Alors évidemment, on va quand même rappeler que ça va rapporter 3 millions d'euros.
J'allais
un peu
dire.
Plus 3 millions d'euros.
Mais vraisemblablement, la Côte d'Ivoire, qui évidemment avait fait appel à des privés, n'était pas loin.
Ah non, mais il ne l'aurait pas fait gratuitement de toute façon. Donc c'est d'autant plus rageant, comme disait Rabé.
Et Nabil aussi, je crois, il dit que c'est rageant.
Bah non,
c'est dommage.
Ouais, c'est toujours un peu dans cette logique de soft power, de politique qatari, d'essayer d'agréger le maximum d'événements. Et un événement.
Ouais, mais t'as un président de la Ligue qui doit intervenir. Le problème, c'est qu'il a une chambre chez Nasser. Alors, j'imagine.
Non, on a bien compris
il doit
qu'il
avoir une chambre chez Nasser, parce que je vois pas comment ça. C'est pas possible, quoi.
Non, déjà, Infantino avait une chambre.
Bon, moi, il n'y a aucune surprise que ça finisse au Qatar pour des raisons politiques ou géopolitiques. Je trouve que c'est
bien
dommage.
Mais une déception.
Ouais, c'est une déception. Et moi, ce qui me déçoit pour le football français, je le dis ici, c'est qu'on parle depuis quelques temps, dans différents secteurs, de perte de souveraineté. Ben, moi, aujourd'hui, j'ai l'impression que le football français, il a en partie perdu sa souveraineté. Il est sous perfusion. Il attend de savoir si le Qatar va acheter des droits télé ou pas. Il attend de savoir si Nasser va lever le doigt pour X ou Y. Donc, ça me dérange.
Bah oui.
Il y a d'autres fédérations qui vendent leur amodia. Parce que l'Espagne, par exemple, a inventé ses bien plus des champions.
C'est
un espèce de tournoi qui se déroule à Jeddah, je crois que c'était pour 4 ans, en Arabie Saoudite.
Quand le Real et le Barça vont faire un match, je ne sais plus où, là, pour la finale.
Bien sûr.
C'est pareil.
C'est ça. Les amis, on nous attend.
Où ça?
Dans l'hémisphère sud.
Ah, bah super.
Là où il fait beau, où il fait chaud.
Merci.
Pour moi, il est le game.
C'est un monstre.
Ele foi um fenômeno mesmo, ele furacão, né?
Fez a cabo, intermédio. E o Ronaldo foi o jogador que simbolizou essa mudança.
Grande azione di Ronaldo, que se é inserido bem.
Aí está Ronaldo, que é um autêntico bus. Ronaldo dentro da área.
Não se pode crer.
Gol de Ronaldo Trentini.
Au go des despedidas, ça devait être face avec les Corinthians, si je ne m'abuse. Alors, direction, le Brésil ou la Seleção. Hein, l'équipe nationale jouera ce soir à Salvador da Bahia contre l'Uruguay. Le Brésil en opération remontada, ça doit se dire en portugais aussi.
C'est une tristesse.
Après avoir occupé des places en deuxième partie de tableau, les Brésiliens recevront les Uruguayens qui, eux, sont deuxièmes. Le Brésil va-t-il mieux? Eric Frozio va sûrement nous le dire, mais j'aurais voulu parler d'autre chose d'abord. On va quand même le saluer. Bonjour Eric Frozio.
Bonjour Annie, tout de bien?
Boa tarde, tout de bon? Envoyez-nous un peu de soleil, Eric, parce que là, franchement, ici, on n'a même plus de lumière. C'est même pas du soleil, c'est de la lumière qui nous manque. Cher Eric, avant de parler de la Seleção, parlons de cette fédération, ou d'ailleurs plutôt confédération brésilienne de football, très discréditée, notamment pour les résultats ou non-résultats de son équipe. Voilà qu'un potentiel candidat à la présidence attire soudain tous les regards. Et vous en avez fait la présentation dans le journal L'Équipe aujourd'hui. C'est un certain Ronaldo, le double champion du monde, c'est cela ?
Ben oui, Ronaldo au fenomeno, comme on l'appelle ici, pour le distinguer du plus jeune Cristiano Ronaldo, le portugais. Donc Ronaldo, l'authentique, on va dire. Il serait très intéressé par le poste de président de la CBF, Confédération Brésilienne de Foot. Et c'est une indiscrétion au départ du journal espagnol Sport, qui a été confirmé par le journal Lance au Brésil, pardon. Et voilà, c'est un poste qui l'intéresse. Et de toute manière, il s'en était jamais tellement caché ces dernières années, depuis qu'il est devenu un dirigeant accompli et réalisé, puisqu'il a eu beaucoup de succès dans sa nouvelle carrière de businessman. Il a été au-delà du foot, hein, puisque vous le savez, il est président de Valladolid, il a été aussi président de Cruzeiro ici au Brésil pendant 3-4 ans, et ça s'est plutôt bien passé. Au-delà de ses succès dans le foot, il a aussi beaucoup de réussites dans d'autres milieux, le divertissement, l'e-sport, la finance, il s'est...
Oui.
Il s'est beaucoup multiplié et puis il a envie de revenir un peu aux ses premières amours et peut-être reprendre en main cette CBF qui est très décriée, qui a beaucoup d'affaires, beaucoup de problèmes de corruption aussi, et c'est évidemment une très bonne nouvelle pour l'opinion publique brésilienne.
Oui, ça pourrait être une bonne nouvelle simplement pour le football brésilien, parce que rappelons que les prédécesseurs du président actuel, qui s'appelle Edinaldo Rodrigues, hein, qui n'est qu'un apparatchik, souvenons-nous de Ricardo Teixeira, qui était le gendre de Avelange, président, lui, de la FIFA à l'époque. Il est resté plus de 20 ans. Lui, son successeur, José María Marín, et ensuite Marco Polo del Nero, sont tous partis pour des raisons de corruption. Est-ce que, selon vous, Eric, ce Ronaldo a tous les atouts pour être le président de la CBF ?
Disons que sur le papier, oui, il a les atouts, il a la notoriété, il a la crédibilité, l'historique aussi, c'est un footballeur évidemment, et ce serait le personnage idéal pour reprendre en main une confédération dont l'image a été salie, ternie par toutes ces histoires. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas tout seul à décider. Le problème, c'est que c'est pas le public qui vote, ni le peuple. Et ce sont plutôt les présidents des fédérations qui composent cette CBF. Il y a 27 fédérations estaduales, comme on les appelle, régionales, on va dire. Ce sont eux qui votent, et ils ont des votes trois fois plus puissants, j'allais dire, que ceux des présidents de clubs. Président de club de Serie A et de Serie B. Donc il faut à la fois convaincre des présidents de fédérations régionales et aussi des présidents de club, ce qui sera peut-être moins difficile pour Ronaldo, des présidents de club de Serie A, Serie B. Mais voilà, le problème, c'est que ces présidents de fédérations régionales, ils sont déjà liés, pieds et poings liés, avec Ednaldo Rodriguez, on va dire la classe historique de cette CBF, et ils n'ont aucune raison de changer de camp, si vous voulez. Donc c'est ça qui va rendre un peu la mission difficile pour Ronaldo, c'est convaincre ces gens-là qui sont très bien lotis, quoi, qu'on plein d'avantages, on va pas les accuser, mais en tout cas ils ont aucune raison, si vous voulez, de changer de camp, quoi.
Ouais. Mais Cheryl Guémour, on pense tout simplement en France. On a bien vu que quand il avait fallu réélire Noël Le Graët à l'époque, ça avait été plutôt assez simple pour lui, alors qu'on pensait qu'il y avait de la contestation, en tout cas autour. Nous, on a un exemple. Pardon ?
Pour la Brune aussi, quand tu regardes les...
Exactement. Ouais. On a eu un exemple en Afrique. C'est un grand joueur. Alors, il doit avoir presque autant de sélections et de buts. Évidemment, on pense à la star qu'est Samuel Eto'o, qui a réussi à conquérir une fédération. Et quand Eric parle de le peuple ne vote pas, là, on avait l'impression qu'il était devenu président presque du Cameroun. Est-ce que là, vous pensez que l'image... des grands joueurs, finalement, ne passent pas par rapport à la direction et au vote ?
Bah, on se souvient aussi des mésaventures de Didier Drogba.
Ouais,
on s'attaque toujours à un système. Ouais. Donc, comme l'a très bien rappelé Eric, dans l'équipe aujourd'hui, il y a deux collèges. Il y a le collège des présidents de club, où là, ça devrait... ça pourrait le faire.
Là, on parle de foot, quoi.
Voilà. Mmh. Et puis après, il y a évidemment les différentes fédérations locales. C'est une fédération de Brésil, hein. C'est pas...
Confédération,
oui, c'est ça. Donc, c'est assez compliqué. Après, je pense aussi que Ronaldo a les atouts. Mais ce qu'il faut bien comprendre, et je pense que c'est ce que... Romario, il en avait parlé un moment quand il avait voulu, avant de sa carrière politique, il s'était un peu intéressé aux questions de la fédération. Et il avait compris... le tir de barrage qu'il allait devoir affronter, parce que lui, il voulait changer les choses, évidemment, mais sans vraiment avoir fait acte de candidature. Mais par contre, il avait bien conscience des difficultés. Et là, pour Ronaldo, je pense qu'une bonne candidature, c'est d'abord des bonnes équipes surtout commencer à prendre date. C'est-à-dire, même s'il n'est pas élu tout de suite, là, maintenant, c'est un travail de longue haleine qui fait que à la longue, il va pouvoir s'imposer.
Il s'y prend à l'avance.
Voilà, il faut s'y prendre à l'avance. Là, je vais donner encore un exemple. Cyril Linette était plutôt bien vu
en France.
Mais par contre, il s'est installé. Enfin, il arrivait pratiquement dans la dernière ligne droite. Mm-hmm. Ouais. Et puis, bon, il n'était pas assez importé dans l'appareil.
Nabil, cette candidature, c'est enthousiasmant, a priori.
Oui, le football au footballeur.
Pour faire briller le football, parce que c'est, Ronaldo, c'est quand même celui de l'équipe qui a remporté la dernière Coupe du Monde brésilienne.
Oui, tout à fait. Et puis bon, de toute façon, c'est une légende mondiale qui a imprimé les esprits comme... de toute façon, c'est un des cinq joueurs brésiliens de tous les temps.
Et... ça pourrait réconcilier Alejandro Valente avec le Brésil, voilà, parce que c'est son joueur préféré.
Et probablement,
probablement... après Maradona.
Probablement le plus grand numéro 9 de tous les temps, s'il n'y avait pas eu ses blessures. Mais enfin, c'est un peu Mike Tyson, quoi. Dans l'esprit, il a frappé l'imaginaire comme jamais. C'est-à-dire qu'on vous parle de Ronaldo, bah, vous êtes là, vous avez l'esprit éveillé. Oui, le football au footballeur. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir quel est son programme, qu'est-ce qu'il souhaite mettre en place. Voilà. Et puis après, je suis d'accord avec Shérif. Alors, il y aura toujours de l'entre-soi, de la politique, parce que parfois, les intérêts particuliers vont dépasser les intérêts généraux, Ronaldo ou pas.
Son programme, Eric, eh bien, c'est qu'il rêverait d'un sélectionneur qui aurait pour nom Pep Guardiola. Alors, on oublie Carlo Ancelotti, on pense à Pep Guardiola.
Pas mal.
On rêve toujours. Bah,
en tout cas, son programme, il l'a pas du tout défini.
C'est juste
une indiscrétion qu'a filtré de la part des deux journées que j'ai citées tout à l'heure. Il rêverait effectivement de Pep Guardiola. Ils ont joué ensemble au Barça en 96-97. Ils ont joué une quarantaine de matchs ensemble avec la même équipe. Ils ont la même vision peut-être du football. Et Pep Guardiola, c'est pour le coup, contrairement à Ancelotti, qui n'avait jamais vraiment... ouvert la porte, Pep Guardiola, à plusieurs reprises, il a toujours dit qu'il était fasciné par la sélection brésilienne et que la porte restait ouverte de son côté. Donc peut-être qu'ils ont discuté en privé. On a interrogé pas mal de proches de Ronaldo, les médias brésiliens s'en sont chargés, il y a Vampeta, Edmilson, tout ça, pour savoir s'ils étaient un peu dans la confidence. A priori, personne ne l'est, mais c'est bien possible que Ronaldo ait pu échanger avec Guardiola sur une possibilité de l'accompagner si par chance il pouvait devenir président de la CBF. Mais bon, ça c'est quand même très, très théorique et son programme pour l'instant on l'ignore complètement. On sait juste qu'effectivement il a de grandes ambitions, mais c'est pas très étonnant. Il aurait de grandes ambitions pour la sélection et pour la remettre sur le devant de la scène avec un entraîneur de l'envergure de Guardiola. Ça aurait beaucoup d'allure quand même.
Ouais. Un petit mot, Shérif? Très court, parce
c'est parfaitement jouable vu que Guardiola, il y a très peu de chances qu'il poursuive avec Manchester City. Donc au niveau du timing, ça pourrait arriver dès ce printemps. Et il faut bien savoir que Pep Guardiola n'entraînera jamais la sélection espagnole. Il est catalan, donc ça laisse la porte ouverte.
Ça laisse
la porte ouverte.
Ce soir, en tout cas, il y a match. Ça sera à 1h45 heure française. Ce Brésil Uruguay. Pas sûr qu'on veille, mais Eric veille pour nous et on ne sait jamais. Éventuellement, on vous rappellera. Merci beaucoup. Muito obrigada, Eric.
Obrigado, Annie. À bientôt.
À très bientôt.
Un dernier mot, Annie. On revient en Afrique. Donc, la Mauritanie, dernier 8e de finaliste, est éliminée. Ça sera le Botswana qui accompagnera l'Égypte dans ce groupe-là. Voilà, le Botswana qui a fait match nul du côté du Caire.
Bon, une première depuis 2012, nous dit un de nos spécialistes du foot africain. Merci beaucoup, messieurs. Et on se dit à demain avec plaisir.